J'invite Sébastien, qui lui va nous parler de l'expérience du mouvement, enfin de la vision du mouvement des communs de CQE, qu'il a pu collecter lors d'une interview.
Tout à fait.
Alors, la règle du jeu, c'est de respecter les moins de 10 minutes.
Tout à fait.
Pour laisser la parole aux autres, parce que sinon, on va se retrouver enfermé.
Je fais attention à ça.
Ou mis à la porte.
Tout à fait. Bon, merci, merci Benjamin. Donc, je vais commencer par dire que j'ai connu CQE à travers un entretien d'enquête que j'ai fait dans le cadre de ma thèse. Et c'était un entretien qui était vraiment très riche, enfin, il avait un contact qui était vraiment humainement super. Et cet entretien, il était génial parce qu'il permettait de croiser énormément de gens que je croiserais dans ma thèse. Donc, il y avait Ostrom, Bollier, Bauens, Frédéric. Enfin, voilà, il y avait énormément de gens dans cet entretien. Et je me suis dit que c'était intéressant de partir de la trajectoire personnelle de CQE pour tirer quelques hypothèses sur le mouvement des communs tel qu'il s'est développé entre 2005 et aujourd'hui. Et je voudrais en particulier avancer trois hypothèses que je tire du coup de sa trajectoire, de l'étude de sa trajectoire. La première, c'est que les mobilisations qui défendent les communs ils s'inscrivent moins dans un mouvement social tel que définit la science politique et plutôt dans ce que Berinier appelle un espace de la cause qui ne fait mouvement qu'à certains moments de cristallisation politique, comme en France il y a eu par exemple la loi de 2016, la loi pour la République numérique, et il y a eu une cristallisation, il y a eu un mouvement des communs numériques à ce moment-là, mais c'est qu'à certains moments, mais il y a un espace de la cause des communs plutôt que mouvement. Et la deuxième hypothèse que je tire, c'est que l'analyse des positions des acteurs dans cet espace de la cause permet en partie de comprendre les différentes prises de position que les acteurs ont, notamment par rapport aux définitions qu'ils peuvent avoir du commun, des communs, du communisme. Et la troisième que j'élaborerai moins puisque tu viens d'en parler, c'est que l'idée de fracture principale des prises de position des acteurs du mouvement, de l'espace de la cause des communs, porte sur le rapport à l'État et aux stratégies politiques. Donc sur le premier élément, je vais essayer de revenir très rapidement sur la trajectoire militante et sociale de CQE. Donc rappeler qu'elle est née en Allemagne de l'Est, dans une famille de paysans à la fin des années 60. Elle a fait des études en humanité, elle s'est engagée dans le militantisme environnemental, dans la fondation Erich Boll, et c'est en 1999 qu'elle devient, elle prend la tête du bureau d'Amérique latine de cette fondation, et elle avait pour mission de créer du lien entre les différentes organisations et mouvements altermondialistes, notamment la Via Campesina ou les tribunaux de l'eau en Amérique latine. Et elle, voilà, elle devait créer des liens entre ces mouvements, les mouvements socio-écologistes et féministes. Et la première fois qu'elle entend le terme commun, d'après l'entretien que j'ai mené avec elle, c'était en 2004, à l'occasion d'une rencontre internationale qu'elle organisait avec une militante argentine des logiciels libres qui lui parle de la question de l'enclosure des communs numériques. Et à ce moment-là, je la cite, elle dit, cette militante nous a expliqué les enclosures. On s'est dit que c'était un bon moyen de connecter les luttes pour l'eau, la terre, les gènes, les logiciels. J'ai compris que la notion d'enclosure des communs pouvait fédérer les mobilisations et jeter des ponts et entre les silos. Donc c'est à partir de cette date qu'elle commence à conceptualiser la notion de problématiser l'enclosure des communs comme un élément fédérateur, puisque c'était son rôle à la Erich Boll Foundation, et elle décide en 2006 d'organiser la réunion internationale à Mexico, donc là où elle va rencontrer David, et elle arrive à réunir Elinor Ostrom, Jochen Benckler, David, et donc c'est vraiment un moment important pour le mouvement des communs, mais on voit déjà apparaître des lignes de fracture. Par exemple, un clash entre le Nord et le Sud. Je vais la citer encore une fois, c'est CQE qui me dit, je me rappelle de l'intervention de Peter Barnes et David Bollier qui était au premier rang. Ils expliquaient le problème de la privatisation des biens publics aux États-Unis. Et là, un militant argentin de la Via Campesina, Carlos Vicente, se lève et dit, ne venez pas nous expliquer votre vérité, vous ne savez pas ce que c'est que les gens qui sont séparés de leurs terres. Et elle dit, je me suis demandé pourquoi les universitaires américains ne comprenaient pas que les enclosures des communs, c'était pas uniquement à propos des terres, des parcs naturels, des logiciels, mais c'était beaucoup plus, c'était à propos des conditions matérielles d'existence. Donc, au-delà de ce problème, de cette division culturelle qui existe, il y a d'autres divisions qui sont celles des mondes sociaux, qui sont ceux des communs. Un exemple, en 2010, donc, Elfrich, David et puis Michel Boens organisent une conférence à Berlin. Et puis Michel Boens me rapporte cette anecdote. On a fait un panel avec Jaromil, qui était un hacker, et une personne des communs de l'eau. Eh bien, cette personne s'est enfuie parce qu'elle avait peur des hackers. Elle avait changé d'avis, elle ne voulait pas être dans un panel avec un hacker. Ces quelques exemples témoignent de l'hétérogénéité catégorielle des acteurs qui composent l'espace de la cause des communs. Et c'était du coup ma première hypothèse, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément un mouvement, mais un espace de la cause qui est structuré par différentes divisions, et notamment des hétérogénéités catégorielles de nationalité, d'origine sociale et de profession. Des gens qui participent à cet espace de la cause. Pour aller rapidement, ensuite, le deuxième élément que je voulais dire, donc la deuxième hypothèse, c'était comment ces positions dans l'espace de la cause permettent d'expliquer les différentes manières que les gens ont de conceptualiser les communs. Donc, si on revient à la trajectoire de Silke, elle commence à partir des années 2000, au milieu des années 2005, quand elle a conceptualisé l'enclosure des communs, elle a compris, elle commence à faire une production d'idées. Elle passe de créer des événements à commencer à faire tout ce travail de génération d'idées. Et elle commence par importer le cadre conceptuel d'Ostrom en Allemagne, elle fait des traductions. Mais petit à petit, elle va commencer à se translader du commun au commoning. Si on prend juste l'exemple des deux ouvrages qu'elle a coédité avec David, en 2012, c'est The Wealth of the Commons, et en 2015, c'est Patterns of Commoning. On voit ce glissement entre commons et commoning, et donc c'est un gérondif avec un concept d'action qui s'attache moins aux catégories de ressources et plus aux pratiques communautaires, ce qui lui permet... on se rappelle de son rôle qui est de fédérer, et en fait cette catégorie plus large, un peu moins définie que la définition ostromienne qui elle s'inscrit dans un champ académique, donc qui est obligée de produire des définitions, Silke et Frisch, elle, son but c'était de fédérer, donc avoir une catégorie plus large permettait à plus d'acteurs de se regrouper, et je la cite encore une fois, elle dit « Pour moi il n'y a pas ce qu'on appelle de commun numérique, il y a des pratiques de commoning en contexte numérique, il n'y a pas de spécificité des communs urbains, c'est juste du commoning en contexte urbain, il n'y a pas de spécificité des communs ruraux, il y a du commoning en contexte rural. » Elle utilise cette formule « all we common, all we don't ». Oui, c'était une belle formule. Et donc voilà, donc pourquoi elle a pris cette position, je l'ai dit, c'était parce qu'elle avait un rôle de fédérer, et puis aussi parce qu'elle pouvait, elle commençait à s'extraire en fait dans l'espace de la cause de la figure tutélaire d'Elinor Ostrom qui gagne son prix Nobel, enfin son prix en l'honneur de Nobel. Et elle commence à prendre une position un peu différente par rapport à Ostrom. À partir des années 2010, donc elle se positionne comme d'autres, David Bellamy mais aussi Frédéric, sur cette différence avec la définition plus académique des communs d'Ostrom, en essayant de chercher les différentes positions sur ce champ-là. Et pour finir, il me reste 2 minutes, je vais aller très vite puisque c'était la troisième hypothèse que je formulais, c'était que le rapport à l'État était aussi une ligne structurante qui structurait le champ, l'espace de la cause des communs, avec deux positions. Une position qui était plus partenariale, que portaient certains acteurs du mouvement des communs, et une position plus critique. Et je pense qu'on peut aussi comprendre la position critique qu'avait Silke par rapport à l'État si on revient sur sa trajectoire personnelle et la construction subjective qu'elle s'était faite de l'État. Donc elle naît dans un milieu social à faible capital économique, dans un État du bloc communiste qui était en train de s'effondrer. Elle a vécu au Mexique, qui est un pays qui est vraiment marqué par un État social très faible, avec un haut niveau d'inégalité et des institutions qui sont sujettes à beaucoup de corruption. Et donc on voit en fait se dégager une critique, quand on lit ses écrits, de plus en plus franche de l'État, qui est décrite comme une entité néolibérale, responsable de l'enclosure, avec ce que tu as rappelé, elle cite souvent le duopole État-marché. Voilà, et c'est vrai que du coup, je te remercie d'avoir fait la synthèse sur son rapport à l'État, puisque je pense qu'il est structurant aujourd'hui. Et c'est vrai que le texte qu'ils avaient écrit en 2016 s'appelait « Le pouvoir de l'État et le communique transcendait une relation problématique ». Et à mon avis, je vais finir par une citation de Joachim Beckler sur cette relation difficile. Il dit, dans un entretien que j'ai fait avec lui, « Je crois que j'ai sous-estimé le rôle de l'État à cette époque, à la fin des années 90. Je pense que c'est vrai pour une grande partie de la gauche jusqu'à ces dernières années. Le scepticisme de la nouvelle gauche à l'égard de l'État n'était moins fort que le scepticisme de l'État des néolibéraux. Le rejet de l'autorité par la nouvelle gauche, le mouvement étudiant de 68, il y avait un profond scepticisme à l'égard de l'État qui semble entrer en résonance avec celui du néolibéralisme de droite. Si je devais dire une chose aujourd'hui, c'est que je suis convaincu de l'idée que nous devons développer un État efficace, en dialogue avec les communs et leur mode d'organisation. J'ai sérieusement sous-estimé l'importance d'une alliance entre l'État et les communs. Et je pense que cette question, comme tu l'as dit, va encore nous donner du vin à moudre pour les prochaines années. Voilà, je termine par dire que c'était une très belle rencontre que j'ai eue trop succincte et très belle rencontre avec Silke à l'occasion d'un entretien de recherche, mais qui peut nouer des relations intéressantes.
Merci. Merci.